Guy de Pourtalès, Les contes du milieu du monde. Les trois pèlerins de Chartres. À Marguerite Chenevière. Madame la Lune, ayant été absente un certain temps pour éclairer l'autre côté de la terre, nous revint un soir au Guigan, toute changée. Elle n'avait plus sa bonne figure ronde et souriante de clown. Son profil était tout rentré, ses joues creusées, son nez s'étirait en longueur. Elle n'avait même pas la force de sourire. Cela lui arrivait pourtant régulièrement, à la pauvre reine des cieux étoilés. Et nous connaissions bien les phases de la maladie. Aussi, lorsqu'elle diminuait jusqu'à ne plus être que le quart d'elle-même, demandions-nous aux autres conteurs de prendre son tour de parole. Chacun le faisait plus ou moins volontiers, selon le talent qu'il se supposait. Mais le vieux grand-duc était timide, et nous avions toujours beaucoup de peine à l'y décider. Il se renfonçait dans son coin, se disait trop vieux ou enroué, et, parce qu'il avait habité presque toute sa vie des cathédrales, prétendait ne connaître que des histoires pieuses qui nous eussent vite ennuyés. « Quand on niche tout là-haut dans les grandes tours ou dans les vieux clochers, disait-il, on n'entend guère raconter ce qui se passe dans le monde. Quelques visites de corneilles et de martinets, parfois celles d'un pigeon dodu et vaniteux, voilà tout ce qu'on peut espérer. Aussi, est-ce surtout avec les vieux saints, les vieux rois et les vieilles reines de pierre que je causais. Je n'entends pas insinuer que leurs histoires soient sans mérite, au contraire. Mais vous comprenez bien, chers amis, qu'elles n'ont pas le brio des vôtres. » Et chacun de se récrier. Quand on avait vécu toute une vie de grand-duc dans l'entourage des rois, il était impossible de n'avoir pas quelques souvenirs à raconter, fussent-ils ceux d'une intrigue de cour, d'une succession, d'une guerre, d'un beau mariage. Alors, le bonhomme, ou bon oiseau, se laissait un peu forcer la patte. « Il faut convenir, disait-il, que certaines de nos cathédrales sont habitées par des seigneurs de haut lignage, dont les vertus ou les passions ont contribué à faire le monde ce qu'il est. Mais il s'y trouve aussi de petits gens. Pour modestes qu'ait été leur rôle, ils n'en font pas moins partie depuis longtemps de ces grandes forêts de pierre. Ils en sont comme le feuillage, car chacun, n'est-ce pas, ne peut pas être fleur. » C'est ainsi que je logeais longtemps à Chartres, derrière un groupe de trois personnages, dont l'histoire pourrait vous intéresser, bien qu'elle soit peu connue et ne figure pas dans les chroniques de la cathédrale. C'est l'histoire de trois pèlerins. Si vous y tenez, je vais essayer de vous la dire. Donc, en ce temps-là, le bon roi Saint-Louis régnait sur la France. Il était revenu de sa première croisade en Terre Sainte, honoré de tous comme le prince le plus pieux et le plus illustre de la chrétienté. Il visitait son royaume, bâtissait ou rebâtissait des églises, fondait des hôpitaux et des écoles. Enfin, la vertu fleurissait de toutes parts sous son sceptre. Outre les aumônes immenses qu'il distribuait, il faisait nourrir chaque jour, dans son palais de Vincennes, 122 pauvres qui recevaient chacun 2 pains, 1/4 de vin, de la viande ou du poisson pour un bon repas. Enfin, 1 denier parisis. Les mères de famille avaient 1 pain de plus par tête d'enfant. Maintes fois, il le taillait lui-même et leur donnait à boire de sa main. Le jour du grand jeudi, lui et ses fils lavait les pieds à 13 pauvres, leur donnait une aumône considérable et ensuite les servait à table. Et comme un des grands de sa suite s'en étonnait une fois et s'écriait que pour sa part, il ne consentirait pas à laver les pieds de ces vilains. « Vraiment, c'est mal dit, répliqua le roi, car vous ne devez m'y avoir en dédain ce que Dieu fit pour notre enseignement. Je vous prie donc, pour l'amour de Dieu premier et pour l'amour de moi, que vous vous accoutumiez à les laver. » De ceux qui le virent ainsi faire son devoir de roi très chrétien, nul ne fut plus touché qu'un simple tailleur d'images nommé Grégoire, qui pour lors travaillait en l'église cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était un très pauvre garçon, orphelin de père et de mère, bien humble parmi les humbles, bien petit parmi les petits. Il ne savait ni lire ni écrire, comme la plupart des gens de son temps, et cependant connaissait son histoire sainte sur le bout des doigts. Car les moines cordeliers et prêcheurs l'enseignaient au peuple chaque jour du haut de la chaire, et les tailleurs d'images passaient ensuite leur vie à la raconter à leur manière, de la pointe de leurs ciseaux. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, les foules apprenaient leur catéchisme en lisant toute vivante et parlante l'histoire du ciel et de l'enfer sur ces grandes bibles de pierre que sont les cathédrales. Un jour donc que Grégoire, le tailleur d'images, façonnait le portrait de Saint Victrice, évêque de Rouen, martyr de la foi, dont Monseigneur Jésus-Christ délia lui-même les chaînes au moment du supplice, le bruit d'une grande multitude sur le parvis de Notre-Dame attira son attention. C'était le pieux roi qui venait chanter vêpres et complies en sa belle cathédrale de Paris pour le jour de la Saint-Marc qui se trouvait être celui de sa naissance. Grégoire descendit en hâte de son échafaudage des tours pour se mêler au peuple. Il vit passer le roi, suivi de son vieil ami, le sénéchal de Joinville, et de plusieurs conseillers du royaume, tous vêtus avec cette simplicité digne dont le souverain donnait l'exemple. Et il assista de loin à l'office, lorsque vers la fin, le recueillement général fut troublé par une étrange rumeur qui s'élevait du côté du porche d'entrée. On se bousculait, on grondait, des poings se levaient. Les uns se pressaient pour voir, d'autres fuyaient dès qu'ils avaient vu, car ce qui approchait ainsi au bruit des cliquettes de bois, c'était une royauté aussi, mais d'une nature bien différente, la terrible royauté de l'horreur et de la souffrance. C'était un groupe de lépreux. Ils arrivaient lentement, agitant leurs cliquettes pour qu'on les vît, agitant leurs bras ou leurs mains couverts de pustules et d'écailles saignantes, presque fiers, presque glorieux de la terreur qu'inspirait leur visage. Chez les uns, on ne distinguait plus que deux yeux qui semblaient vous regarder du fond de l'enfer. Chez les autres, au contraire, le mal s'était comme retiré en dedans, laissant la peau nette, mais sa blancheur même faisait déjà d'eux des morts. Devant ce groupe de réprouvés marchaient deux femmes. L'une était vieille, crochue, bancale, en haillons, et tellement rongée d'ulcères qu'elle semblait devenue la lèpre en personne et capable de vous infecter par sa seule présence. L'autre était une jeune fille d'une beauté exquise et légère, drapée dans une longue robe blanche et dont le visage pur et noble rappelait celui d'une divinité païenne. Du moins, Grégoire en jugea-t-il ainsi d'après une statue antique qu'un chevalier avait rapportée d'Asie mineure et que l'archevêque avait fait placer dans une chapelle où elle figurait sainte Cuburge, reine vierge et abbesse en Angleterre. La jeune fille souriait et semblait ne rien entendre des malédictions proférées autour des lépreux, accusés depuis peu de contaminer volontairement les puits et les fontaines. Car le hideux mal s'étendait en effet dans Paris, la grande ville. D'aucuns prétendaient même que Dieu permettrait au fléau de s'étendre davantage encore, tant que le roi et ses vassaux ne repartiraient pas pour délivrer les lieux saints de la domination des infidèles. Mais un cordelier avait prophétisé le matin même de ce jour que s'il se trouvait trois pèlerins lépreux au cœur pur, hommes, femmes et enfants, pour aller pieds nus, au péril de leur vie et de leur âme, à travers les forêts sauvages jusqu'en la ville de Chartres, afin d'y déposer les prières des lépreux de Paris aux genoux de la Vierge miraculeuse de Souterre, alors Dieu, dans sa miséricorde, ferait cesser le fléau. Cependant, le roi s'était levé de la dalle où il se tenait agenouillé. Il s'avança seul au-devant des lépreux, tandis que ses conseillers demeuraient en arrière. Puis il adressa quelques paroles d'affection à ses malheureux et offrit sa bourse à la vieille. Apercevant alors sous la large manche de la jeune fille une main déjà toute gâtée par le mal, le roi fut tellement ému de compassion qu'il prit cette main et la baisa. Il y eut un instant de stupeur. Puis grandes louanges s'élevèrent de toutes parts sous les voûtes de la basilique. La foule s'écarta avec respect devant le saint roi, qui venait de donner un si bel exemple de charité chrétienne. Les moines accoururent, les cliquettes reprirent leur musique, et la cathédrale se vida en peu d'instants, chacun voulant faire escorte au royal pénitent. Seul, restèrent dans une chapelle la jeune lépreuse qui s'était agenouillée pour prier et Grégoire l'imagier, appuyé contre une colonne pour regarder cette belle statue vivante. Lorsqu'elle se releva après un très long temps, ses compagnons étaient tous partis et les sacristains avaient fermé les portes et tendu les chaînes, comme ils le faisaient chaque soir. La jeune fille alla se cogner aux portes comme une hirondelle prisonnière, quand Grégoire s'avança et s'offrit à la reconduire à la léproserie dès que la nuit serait complète, car il connaissait les voies secrètes de la cathédrale. La lépreuse parut fort effrayée en voyant le jeune artisan, leva la main et montra ses plaies, puisque son visage était resté pur. Mais Grégoire fit comme le roi. Il prit cette main et la baisa. La lépreuse le suivit alors dans l'une des tours où il lui apporta à manger, la fit reposer, la garda jusqu'au lendemain et voulut se faire raconter son histoire. Elle lui dit seulement qu'elle était fille d'une sainte qui s'appelait Sophie et vivait à Rome au temps de l'empereur Adrien, qu'elle-même avait déjà vécu deux fois et n'était revenue en ce monde que pour obéir aux ordres du Tout-Puissant. Grégoire l'écouta avec étonnement, et croyant qu'il hébergeait une folle, ne l'en aima que mieux, car il était simple de cœur et pitoyable. « Pauvre lépreuse, lui dit-il, j'ai grand peur que ton cerveau ne soit atteint de la même maladie que ton bras, car nul jusqu'ici n'a pu vivre plusieurs fois. » Pourtant, tes 12 yeux ne sont point ceux d'une démente. Grégoire, répondit-elle, n'est-ce pas toi qui tailla les images de Saint Victrice, évêque de Rouen, et du grand Saint Basile, qui guérit par sa foi tant d'horribles maladies? Comment le sais-tu? S'écria Grégoire, tout surpris. Ce sont les pierres elles-mêmes qui me l'ont appris, reprit-elle. Car Dieu m'a donné le pouvoir de les entendre, comme il donna jadis à ma mère, Sophie, le pouvoir de résister au péché, afin de faire d'elle une sainte, et à mes 2 sœurs la constance d'endurer la torture, afin qu'elles devinssent de glorieuses martyres. Grégoire se confirma dans la pensée que la lépreuse ne possédait pas toute sa raison. Mais ce qu'elle disait avait tant de naïveté et elle-même était si aimable à voir qu'il ne songea plus qu'au moyen de la garder dans la tour pour tailler d'après elle des figures de reines et de saintes. Cependant, elle voulut retourner à la léproserie où l'attendaient son frère et sa mère, Balbine, laquelle n'était autre que la vieille crochue et bancale. Car si Dieu lui avait donné une première fois une mère superbe et chrétienne, inflexible, la seconde fut toute pauvrette et misérable. Grégoire l'accompagna jusqu'à la porte de l'enclos et la pria de revenir bientôt. Elle n'y manqua point. Seulement, elle revint avec son frère Valentin, enfant d'une dizaine d'années, et comme elle, enfant de lépreux. La sœur avait le mal au bras droit, le frère aux jambes et aux pieds, mais il semblait n'y songer ni l'un ni l'autre, et moins encore Grégoire. À eux trois, ils passèrent de claires journées dans la tour où le jeune ouvrier frappait sur son ciseau, tandis que la jolie sans nom, car c'est ainsi qu'elle voulut se faire appeler, donnait un langage, une âme et des pensées à chacune de ses statues. Grégoire l'écoutait avec ravissement, tant elle racontait bien ses belles vies de saints et de saintes, d'habitude si modestes, si unies, qu'on s'étonnait de leur voir décerner les honneurs du calendrier. Mais lorsque son nom les expliquait, c'était comme si elle feuilletait le plus beau des bréviaires de l'archevêché, peint de 1000 figures d'or et d'azur, avec des châteaux forts, des églises, des calvaires, des chemins de croix, et dans les marges, des fruits et des fleurs. Et tandis qu'elle racontait ainsi la gloire de ceux qui n'en souhaitèrent nul autre que celle de l'oubli, son frère parlait avec nos parents de la race ailée, car tel était le don qu'il tenait du ciel. Il entendait le langage des bêtes. Et peut-être eussent-ils vécu longtemps de la sorte, tranquilles et heureux dans leur solitude, si Grégoire n'avait bientôt découvert sur son corps les premiers signes de la maladie. Il s'en réjouit, puisqu'elle lui donnait une raison de plus pour ne jamais quitter ses amis. Mais cela lui donna aussi à réfléchir sur le peu de temps qui lui restait peut-être à tailler des statues, et enfin lui rappela la prophétie du cordelier au matin de la Saint-Marc. S'il se trouve trois pèlerins lépreux au cœur pur, un homme, une femme et un enfant, pour aller pieds nus au péril de leur vie et de leur âme jusqu'à Chartres, afin d'y déposer aux genoux de la Vierge miraculeuse les prières des lépreux de Paris, alors Dieu, dans sa bonté, ôtera le fléau de dessus la cité. Ne serions-nous point ces trois pèlerins, dit Grégoire. Et il vit tant d'assurance dans les 12 yeux de son nom, tant d'intrépide volonté dans ceux du petit Valentin, que son cœur se remplit d'espoir. Oui, cela ne fait pas doute, reprit-il. Nous sommes les trois pèlerins désignés par le saint prêtre, et le plus tôt nous partirons, le mieux ce sera pour tant de malheureux. Ils partirent donc un matin avant l'aurore, sans prendre congé de personne, afin de n'être point retenus. Ils franchirent les portes de Paris en agitant leurs cliquettes, sans que les veilleurs leur demandassent rien, tant la robe jaune des lépreux et le cœur rouge qui s'y trouvait cousu en pleine poitrine inspiraient d'effroi aux plus rudes soldats. À peine hors des remparts, ils prirent à travers champs, et se retournant vers la grande ville ceinturée de créneaux et de forts, invoquèrent à genoux la protection de Sainte Geneviève, patronne de Paris. Puis ils s'enfoncèrent dans la forêt. Mais ils ne savaient pas que le diable s'était mis en route en même temps qu'eux. Le diable n'était nullement pressé de voir finir si vite l'épidémie de lèpre. Le bon roi Saint-Louis ayant apaisé bien des guerres et ne parlant point encore de remettre à la voile pour Jérusalem, le diable et la mort, n'avaient plus leur compte d'âme pécheresse que par la maladie. Aussi résolurent-ils de s'opposer au voyage des trois pèlerins, qui, s'ils réussissaient dans leur entreprise, risquaient de leur en ôter encore beaucoup. Et ils se mirent à l'œuvre dès la première nuit. L'obscurité commençait à s'épaissir dans la grande forêt de Chevreuse, où les voyageurs étaient parvenus. Quand ils s'aperçurent qu'ils étaient suivis et épiés sous bois par quantité de petites lanternes. D'abord, il y en eut 2, puis 4, puis 12. Puis ils ne purent plus compter ces feux follets, sautillants, glissants et silencieux, car pas une branche ne craquait dans les fourrés. C'étaient des yeux de loup. Et ces loups paraissaient avoir grand faim, et attendre seulement qu'il fît encore plus sombre, ou que les voyageurs fussent couchés et endormis, pour se jeter sur eux et les dévorer. Mais son nom n'était pas craintive. Grégoire chantait, car son cœur ne manquait jamais de confiance. Seul Valentin voulut se reposer, ses pauvres pieds nus déjà tout ulcérés, s'étant encore fort déchirés aux ronces et aux pierres. Grégoire tira du pain et des pommes de son bissac, et ils se mirent à manger tandis que les loups se rassemblaient autour d'eux. Alors, Valentin leur adressa la parole dans leur langue. « Amis loups, leur dit-il, soyez remerciés d'être venus nous tenir bonne compagnie ce soir, car il fait si sombre en cette forêt que, sans vos yeux, nous n'y verrions pas clair. Sachez que nous sommes trois pauvres lépreux qui nous rendons en pèlerinage à Chartres. Si donc vous mangez de notre chair avant qu'elle soit purifiée, vous mourriez cette nuit même de la malmort que nous portons en nous. » Et, s'avançant sans peur vers les bêtes féroces que le diable leur avait dépêchées, le petit garçon leur montra ses jambes qu'ils vinrent aussitôt flairer. Alors, s'étant consultés, les loups s'approchèrent l'un après l'autre pour lécher les pieds de cet enfant qui parlait comme eux la douce langue des loups. Et ils s'en retournèrent au fond de la forêt, raconter aux ours, aux sangliers et aux aurochs ce qu'il en était. Aussi, les trois pèlerins purent-ils, cette nuit-là, dormir en paix sous le regard bienveillant des étoiles. Le lendemain fut une belle journée. Ils chantèrent des psaumes tout en marchant. Ils burent aux sources, mangèrent des cerises sauvages et se racontèrent des histoires. Seulement, vers la fin de l'après-midi, le petit Valentin fut si fatigué que Grégoire le chargea sur ses épaules. Et le tailleur d'images s'émerveilla de voir l'enfant sortir un tout petit arc de sa poche et envoyer en se jouant de toutes petites fléchettes dans le cœur des hirondelles, des jets et des pies qui passaient à sa portée. Mais loin de tomber mort, les oiseaux s'élevaient aussitôt plus haut dans les airs et chantaient avec plus de joie et de ferveur qu'auparavant. Il semblait que la nature fit fête partout aux trois pèlerins. L'églantine et la verveine embaumaient sur leur passage. Les hêtres et les chênes les éventaient avec leurs feuilles. Ils virent un cerf et sa biche, laquelle était, dit-on, celle qui allaita le fils de Sainte-Geneviève de Brabant. Le coucou les guida d'arbre en arbre au travers de la forêt et son nom marchait si noblement sur la mousse qu'elle ressemblait à la belle Sainte Vierge que maître Grégoire avait taillée pour le chapitre d'Amiens. Seuls les hommes leur étaient hostiles, car ils croyaient voir en eux la mort. Au crépuscule, comme les pèlerins se trouvaient devant la porte d'un bourg où ils voulaient passer la nuit, des soldats et des enfants ramassèrent des pierres et commencèrent de les lapider. Ils durent s'enfuir vers la forêt, où les bêtes, du moins, se montraient hospitalières. et comme ils y arrivaient, ils virent une grotte. C'était celle d'un ermite qui y avait vécu jadis un quart de siècle, tel saint Jean-Baptiste dans le désert. Les grosses pierres qui en gardaient l'entrée auraient bien volontiers raconté à son nom l'histoire du saint homme. Mais les trois amis étaient si épuisés qu'ils s'endormirent doucement, serrés les uns contre les autres, au murmure de la source et du vent. Subitement, Grégoire s'éveilla. Le fond de la grotte s'était ouvert, comme une porte qu'on roule, et devant lui s'élevait, dans un paysage féerique, un superbe château fort. Madame la Lune en éclairait la façade. Fenêtres et créneaux brillaient du feu des torches, et deux jeunes pages s'avançaient en souriant vers la caverne. Bonnes gens, dirent-ils. Notre maître et seigneur, ayant appris que vous vous étiez endormis dans cette grotte sauvage, en a éprouvé un si grand déplaisir qu'il nous envoie vous prier d'entrer en son château pour y achever la nuit et lui apporter le réconfort de vos prières, car il est fort malade. Sans doute ne lui refuserez-vous pas. Non, certes, firent les pèlerins en se frottant les yeux, car ils ne savaient s'ils rêvaient ou si dans leur fatigue, ils étaient le jouet d'une hallucination. Mais avant même d'être au clair là-dessus, ils furent introduits dans la grande salle du château. Une douzaine de dames et de chevaliers s'y tenaient groupés autour du seigneur, qui était un vieil homme malade, assis dans un haut fauteuil. « Je vous ai fait chercher, mes amis, dit-il aux pèlerins, afin que vous me donniez quelque distraction et m'aidiez à passer mes longues nuits d'insomnie et de souffrance. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Rafraîchissez enfin d'une histoire gaie mon esprit lassé d'entendre ressasser de mauvais contes de gloire et d'amour, et je vous comblerai d'argent et de bienfaits. » N'as-tu donc pas peur de la mort? Demanda Grégoire. Et ton âme est-elle si bien préparée à paraître devant le juge suprême que tu reçoives sans crainte trois lépreux à ta table? La mort ne veut pas de moi, dit le vieillard, et votre mal ne saurait m'atteindre. Il y a trop longtemps que je vis pour n'avoir pas 100 fois déjà rencontré des malheureux de ton espèce sans qu'il m'en ait coûté une souffrance de plus, ni un jour de moins. Grégoire raconta en quelques mots qui il était et ce qu'il savait de ses deux compagnons. Alors le seigneur leur fit servir un délicat repas et dit « Grégoire, la route de Chartres est encore longue et c'est le ciel qui t'envoie ici. Repose-toi pendant quelque temps chez moi avec ta compagne et son frère, dont les pieds ne le peuvent plus porter. » Je vous ferai soigner avec des onguents dont j'ai le secret, et tu tailleras pour ma chapelle 2 statues de tes belles dames du paradis. » Et Grégoire fut tenté. Jamais seigneur ne lui avait parlé ainsi. Ses doigts lui démangeaient de triturer la terre glaise une fois encore pendant qu'il le pouvait, et de modeler d'après 100 noms les visages de sainte Anne et de sainte Véronique. Mais s'étant tourné vers ses compagnons, il vit que l'enfant dormait, appuyé à l'épaule de sa sœur, et que celle-ci paraissait plongée dans une profonde méditation. En réalité, elle écoutait ce que lui racontait un gros livre qui se trouvait enchaîné à un pupitre voisin. Et ce livre devait lui rappeler bien des souvenirs anciens, car toutes sortes d'impressions variées pouvait se lire sur son visage, dont Grégoire avait étudié chaque expression. Tout à coup, ses yeux brillèrent d'une sainte colère, et elle dit en s'adressant au vieillard : « Ne te semble-t-il pas, Seigneur, que que nous sommes de très vieilles connaissances. Je me rappelle, quant à moi, d'avoir vu pour la première fois à Rome, sous le règne de cet empereur Adrien, qui aimait les arts et le plaisir, vainquit les Sarmates, soumit les Juifs, mais se déshonora en faisant périr beaucoup de chrétiens dont le seul crime était de confesser leur foi. Or, parmi ces chrétiens, se trouvaient ma mère Sophie, mes deux sœurs et moi-même. Mes sœurs moururent de la mort des martyrs, et je ne te dirai rien de moi. Mais parmi les conseillers de l'empereur au tribunal, je revois un sénateur aigu et cruel, se penchant sur son épaule pour railler sa clémence possible. Et ce sénateur, c'était toi. Et quelques siècles plus tard, après que nos restes eût été transportés dans l'église abbatiale des Chaux en Alsace, d'où je repartis vivre ma seconde vie humaine, n'est-ce pas toi que je rencontrai un jour sur les bords du Rhin? Tu étais alors déguisé en docteur juif, ou bien étais-ce en poète allemand? J'étais jeunette et tu te jouais de mon innocence. Tu te moquais de tout à ton habitude, et de notre sainte religion, et de notre bon évêque, dont tu disais que l'habillement, depuis la mitre jusqu'à l'étole, n'était que du vieil égyptien, tel qu'on le voit figuré sur les pyramides du désert. Tu me fis coucher sur le dos dans le gazon, et me demandas si réellement le ciel pouvait contenir autant de magnificence qu'on le disait. Et tu t'étonnais que de toutes ces magnificences, il n'en tomba jamais rien sur la terre. Par exemple, un pendant d'oreille en diamant, ou un collier de perles, ou au moins un morceau de gâteau aux cerises. Tandis qu'il ne nous venait toujours de là-haut que grêle, neige, pluie ou maladie. Ne t'en souvient-il pas? Et comme je m'indignais de tes propos, n'ajoutais-tu pas pour me rassurer que les juifs et les poètes étaient trop artistes pour ne pas devenir un jour meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes? Ne jurais-tu pas, quant aux juifs, qu'ils combattraient à mort pour la Trinité et qu'il fallait leur faire entière confiance autant et plus qu'au pape lui-même pour le commerce des âmes? Et plus tard encore, au siècle des mécréants, n'est-ce pas toi qui fondas un monastère pour instruire les maîtres d'école dans l'incrédulité? Ni Dieu, ni pape, ni roi, enseignais-tu alors, ni tradition, ni grandeur, ni enthousiasme, point de héros, de croyants, de songes creux. La terre est notre seule demeure, le savoir notre seul paradis. L'apothicaire et le maître d'école sont nos dieux de demain. Cependant, comme ta vanité restait grande, tu disais que chacun de tes souffles portait en soi une vie éternelle, que tu étais toi-même un des hommes les plus éternels, que chacune de tes pensées était une étoile éternelle, toi qui ne croyais pas à l'immortalité. Le bon Grégoire contemplait son nom avec un étonnement profond. Et doutant toujours s'il rêvait, il choisit deux marguerites dans un vase de la table et les glissa dans la ceinture de ses compagnons pour voir si elles s'y trouveraient encore le lendemain. Mais à peine son nom finissait-elle de parler que le vieillard malade se leva de son fauteuil en poussant un éclat de rire horrible, tandis que ses cornes, jusque-là soigneusement aplaties, se dressait soudain sur sa tête. La lépreuse fit un signe de croix de sa pauvre main pustuleuse, et à l'instant même, le tonnerre ébranla le château. L'obscurité se fit, tout disparut, et Grégoire se réveilla en sursaut dans la cellule de l'ermite. Le jour se levait, les oiseaux commençaient de chanter, tout respirait la paix du Créateur. Et voici que le frère et la sœur, endormis épaule contre épaule comme deux agneaux, tenaient chacun entre leurs doigts une marguerite. Ils se remirent en marche en louant Dieu, et Grégoire raconta le rêve qu'il avait fait. Son nom assura qu'elle n'avait point rêvé du tout, et Valentin quoiqu'il ne pleurât ni ne se plaignît jamais, montra ses petites jambes enflées et tuméfiées. La fièvre les tenait tous les trois et sembla dès ce moment les gagner de vitesse, si bien qu'ils craignirent de ne point arriver vivants à Chartres. Aussi, pour hâter leur marche, Grégoire reprit-il Valentin sur ses épaules. Mais il trébuchait sous ce léger fardeau, s'affaiblissait, et il lui fallut se reposer souvent au bord du chemin. Cependant, Grégoire ne perdait pas courage parce qu'il était jeune. Il croyait que le monde était bon, et la pensée qu'il allait délivrer du hideux mal tant de désespérés suffisait à lui rendre ses forces invincibles, dont il est dit dans les saints livres qu'elles vaincront l'enfer lui-même. Ils marchèrent toute cette journée-là, et encore celle du lendemain, faisant comme toujours fuir le monde devant eux. Mais le soir du troisième jour, comme ils cherchaient un lieu pour faire halte, un moine monté sur sa mule les aperçut et les interpella. « Hé, camarades, où allez-vous de la sorte, pieds nus et les vêtements en loques ?»« Nous allons en pèlerinage à Chartres, mon bon frère. »« À Chartres ? Vous voilà donc égarés bien loin de votre route, mes amis. Laissez-moi vous donner le conseil de faire votre nuitée ici, près, au couvent de Notre-Dame des Douleurs. J'y vais de ce pas moi-même et vous y ferai recevoir comme il convient. » « C'est que nous sommes des lépreux, bon frère, » dit Grégoire en ajoutant sa cliquette, « et il est peu probable qu'on nous accueille comme tu parais le supposer. » « C'est ce qui te trompe, » reprit le moine, « car le couvent a été dédié par le saint roi aux malades et aux voyageurs, et il s'y trouve de plus un quartier pour les lépreux. » Ils suivirent donc le gros moine sur sa mule, et tandis qu'il marchait, un rossignol se mit à chanter au loin. Et le petit Valentin tendit l'oreille pour l'écouter. Or, le rossignol chantait « Joliettement m'y tient le mal d'aimer » qui est une des plus vieilles chansons au royaume de France. Mais il semblait ne pas pouvoir aller au-delà des premières mesures. C'était comme s'il eût oublié ses trilles et ses roulades. Il recommençait sans cesse son couplet « Joliettement m'y tient le mal d'aimer », essayant d'y mettre toute la tendresse de son petit cœur et laissant chaque fois mourir sa voix dans un sanglot. Valentin voulut aller le questionner, mais ils arrivèrent dans ce moment devant un grand bâtiment où ils furent reçus par un religieux dont la tête était entièrement cachée par un capuchon gris. Sans prononcer une parole, le religieux s'inclina devant eux et leur fit signe de le suivre. Ils traversèrent un cloître, puis une longue galerie, puis d'autres cloîtres, puis d'autres galeries, croisant ici et là quelques religieux invisibles sous leurs capuchons et silencieux comme des ombres. Leur guide les fit entrer dans une pièce meublée de trois lits, d'une table et d'un banc. Puis il se retira sans une parole. Deux autres capuchons survinrent bientôt et disposèrent sur la table trois gamelles pleines de soupe, du pain et une cruche d'eau. Lorsqu'ils eurent mangé, le bon moine reparut et voulut connaître leur histoire. Mais quand ils la lui eurent racontée, « N'avez-vous donc point appris la nouvelle ? » s'écria-t-il. « Les pèlerins sont arrivés depuis déjà plusieurs jours à Notre-Dame de Chartres et le fléau s'est retiré de Paris, la grande ville. On dit que tous les lépreux bons chrétiens ont été guéris par miracle et que le roi lui-même est allé en sa basilique de Saint-Denis rendre grâce au ciel de ce bienfait. » Et comme nos gens s'entre-regardaient, stupéfaits, « Croyez-moi, » ajouta le moine, « il vous faut rester ici quelque temps pour vous remettre de vos fatigues. Il y a dans ce couvent des malades et des mourants que vous pourrez aider au dur passage de vie à trépas. » car les frères que vous avez vus ont tous fait vœu de silence. Reposez-vous cette nuit, et dès demain, on vous donnera des âmes à consoler. » Or, celui qui voulait ainsi les retenir n'était autre que le diable en personne. Et sous les capuchons gris, il n'y avait que têtes de morts et squelettes. Mais comme les pierres en ce lieu maudit ne pouvaient parler, son nom ne put les interroger, et ce fut à son tour d'être tenté, rien ne lui paraissant plus beau que de sauver des âmes. Elle se mit à prier, tout bas. Valentin dormait déjà. Et quant au pauvre Grégoire, bien qu'il se réjouît d'apprendre le miracle de Paris, il ne put s'empêcher de verser des larmes en songeant à l'inutilité de leur sacrifice. En somme, ce fut une mauvaise nuit, quoiqu'ils eussent dormi pour la première fois depuis longtemps dans de vrais lits. Levé avant l'aube, Grégoire se rendit à la chapelle pour y faire ses dévotions, et il fut bien étonné de la trouver fermée. Aucune cloche ne sonna matine, nul chant ne s'éleva. Seuls deux capuchons glissèrent devant lui, faisant un étrange bruit de cliquettes. C'étaient les os de leurs pieds qui frappaient les dalles. Son nom et Valentin se mirent debout, mais ils étaient si faibles et si malades que Grégoire les engagea à demeurer quelques jours dans ce couvent, maintenant que leur entreprise n'avait plus de raison d'être. « Non, dit la lépreuse, nous avons fait promesse à Dieu, il ne nous abandonnera pas. Partons. » Et réunissant tout leur courage, ils voulurent sortir. Mais ils ne le purent, toutes les portes se trouvant fermées. Et les capuchons qu'ils interrogèrent secouèrent sans maudire la tête. Un seul d'entre eux, qui paraissait plus courbé que les autres, leur montra de sa manche le jardin. Ils y allèrent, mais le jardin était clos de murs énormes, semblables à ceux d'une forteresse. Ils étaient prisonniers. Ils s'agenouillèrent tous trois dans l'herbe pour adresser à Dieu une fervente prière. Lorsqu'en ce même instant le rossignol chanta, c'était celui-là même qui chantait la veille « Joliettement m'y tient le mal d'aimé ». Et ils aperçurent, dans une cage accrochée au mur, un pauvre rossignolet tout gris, immobile sur son barreau. Mais ce qui surprit Valentin plus que tout, c'est que l'oiseau chanta en plein jour, contrairement à la coutume des rossignols. S'étant approché, il lui dit « Rossignol, mon ami, est-ce pour le plaisir des bons moines que tu chantes ainsi à cette heure ?»« Oui, répondit le rossignol, c'est pour leur plaisir et aussi pour attirer ici quelque épouse nouvelle, puisqu'ils ont tué mon ancienne. » »« Ils l'ont tuée ?»« Sans doute, et j'en appelle une autre, comme tu l'entends à la chanson. » Mais il n'en vient aucune pour partager avec moi les douceurs de cette nuit éternelle. Nuit éternelle, s'écria Valentin. Mais ne vois-tu donc pas qu'il fait plein jour? Plein jour pour toi, peut-être, dit le rossignol. Mais pour moi, c'est la longue nuit solitaire, car ils m'ont rendu aveugle pour que je ne cesse jamais de chanter. À ces mots, le cœur du garçon s'emplit de pitié. Il ouvrit la cage, prit l'oiseau et le baisa. Deux grosses larmes tombèrent sur les pauvres petits yeux brûlés par le démon. Et aussitôt, la vue leur fut rendue. Et le rossignol, tout heureux, s'alla percher sur la branche d'un saule voisin. Pèlerin, chanta-t-il, éloignez-vous au plus vite de ces lieux si vous ne voulez point devenir squelette, comme tous les capuchons de ce couvent. Suivez-moi, et je vous guiderai hors de l'enceinte maudite. » Alors seulement, ils reconnurent qu'une fois encore, ils étaient tombés dans un piège de Satan. Ils suivirent le rossignol d'arbre en arbre jusqu'au fond du jardin, où ils découvrirent un trou dans la muraille, et purent se glisser dehors et retrouver la campagne. Et ils se souvinrent que le cordelier de Notre-Dame avait prédit qu'ils ne parviendraient au but qu'au péril de leur âme et de leur vie. La confiance leur revint. Ils louèrent Dieu, ils reprirent des forces et se remirent à marcher dans la grande plaine de Beauce, couverte de blé, qui s'ouvrait devant eux. Les épis ondulaient sous un vent léger. Les coquelicots innombrables étaient comme le sang vif de l'été, et le ciel bleu, tout habité d'alouettes invisibles, prolongeait dans l'infini ce grand vitrail du bon Dieu. Ils marchèrent ainsi toute cette dernière journée, sans rien voir d'autre que les moissons, les fleurs et le ciel, jusqu'à ce que le petit Valentin, du haut des épaules de son ami Grégoire, s'écria qu'il apercevait un lièvre. Oui, certes, un lièvre, deux longues oreilles dressées tout là-bas, au ras de la plaine. Ils s'arrêtèrent pour le voir, comme les enfants des villes que tout intrigue à la campagne. Puis ils marchèrent vers lui tout doucement pour le surprendre, mais le lièvre ne bougeait pas de place, et plus ils avançaient, plus semblaient s'éloigner les deux longues oreilles qui ne remuaient point et tout de même leur faisaient signe. « Venez, disait-elle, dépêchez-vous, voici le crépuscule. Je vous écoute depuis longtemps, mes enfants, et mes longues oreilles ont entendu par-dessus les blés et les bois la chanson de vos âmes. Venez vite, car vous êtes attendus au gîte et l'heure approche de votre récompense. » Alors, ils comprirent que ces deux longues oreilles au bout de la plaine étaient les clochers de la cathédrale, et ils marchèrent plus vite, en trébuchant, les mains tendues en avant. Enfin, couverts de sang, de poussière, d'ulcères, en haillons, mais vêtus de la splendeur des justes, les trois pèlerins entrèrent à Chartres. Ils allèrent tout droit à la cathédrale et tombèrent à genoux devant le grand Christ du portail royal. Et lui, qui est le fondement et la pierre d'angle sur quoi repose tout l'édifice, lui, qui est le maître du ciel et de la terre, l'auteur de la nature et de la grâce, la source de toute vie et le souverain juge, il leur fit signe d'entrer. Et ils entrèrent dans la grande paix de la cathédrale. Les rois et les reines de Juda inclinèrent légèrement la tête sur leur passage. Et aussi les 14 figurines qui représentent les béatitudes de l'âme. Beauté, liberté, honneur, joie, volupté, volonté, force, concorde, amitié, longévité, puissance, santé, sécurité et science. Mais les trois pèlerins n'en surent rien. Ils ne pensaient qu'à la délivrance de leurs frères lépreux que Dieu avait promise à leur persévérance. Aussi descendirent-ils tout de suite dans la crypte de Notre-Dame de Souterre, qui renferme une relique insigne, le voile de la Vierge, dont les miracles ne se comptent plus. Et il y avait là, dans le fond d'une galerie, plusieurs chambres pour les malades, pour ceux que dévorait le mal des ardents, ou la lèpre, ou la peste, ou d'autres maladies contagieuses. Mais si fatigués, si brisés étaient les trois pèlerins, qu'ils n'eurent pas la force de s'y traîner. L'heure étant tardive et la crypte vide, ils restèrent à genoux sous la veilleuse, trois petites ombres orphelines, enveloppées dans la grande ombre maternelle de la mère du Christ. Et le temps passa. Le silence devint si profond qu'on n'entendit plus aucun souffle. Seule vivait encore la flamme vacillante de la lampe qui brûle éternellement. Mais elle n'éclairait plus que trois pauvres morts, confondus sur le sol, en un unique embrassement. Alors, dans le coin d'un tableau suspendu à l'autel, deux beaux anges se levèrent doucement. Ils descendirent dans la crypte, fermèrent les yeux des pèlerins morts, soulevèrent leurs cadavres et les étendirent côte à côte dans un tombeau. Puis, l'un des envoyés célestes alla chercher trois pierres tombales, et l'autre, arrachant de son aile une plume d'azur, écrivit sur la première « Espoir » et il la plaça sur le corps de Grégoire, le tailleur d'images. Sur la seconde, il écrivit « Foi » et il la plaça sur la lépreuse, son nom, dont le visage rayonnait d'une beauté sans tache. Et sur la troisième, qu'il mit entre les deux autres, il écrivit « Amour ». Et Monseigneur Jésus-Christ reçut au ciel, parmi les bienheureux, ces trois âmes fidèles. Et la lèpre fut arrêtée dans Paris la grande ville. Pourtant, personne ne connut jamais les noms véritables des trois pèlerins à qui l'on devait ce bienfait. Mais Dieu les connaît. Et cela suffit.